Germaine de Staël, Delphine, partie 2. Lettres 1 à 6 comprises. Lettre première. Mademoiselle d'Albémar à Delphine, Montpellier, 20 juillet 1790. Après avoir reçu votre lettre, j'ai passé le jour entier dans les larmes, et je peux à peine voir assez pour vous écrire, tant mes yeux sont fatigués de pleurer. Ma chère enfant, à quelle douleur vous avez été livrée! Ah, que n'étais-je là pour exprimer ma haine contre les méchants et pour consoler la bonté malheureuse? Je m'étais attachée à Léonce. Je le regardais déjà comme un époux, comme un ami digne de vous. Il a été capable d'une telle cruauté. Il a volontairement renoncé à la plus aimable femme du monde parce qu'il avait à lui reprocher une faute dont toutes les vertus généreuses étaient la cause. Une faute comme les anges en commettraient s'ils étaient témoins des faiblesses et des souffrances des hommes. Sans doute Madame de Vernon n'a point su vous défendre. Je vais plus loin, et je la soupçonne d'avoir empoisonné l'action qu'elle était chargée de justifier. Mais ce n'est point une excuse pour Léonce. Celui que vous aviez daigné préférer devait-il avoir besoin d'un guide pour vous juger? Non, il ne vous a jamais aimé. Il faut l'oublier et relever votre âme par le sentiment de ce que vous valez. Ma chère Delphine, la vie n'est jamais perdue à 20 ans. La nature dans la jeunesse vient au secours des douleurs. Les forces morales s'accroissent encore à cet âge, et ce n'est que dans le déclin que sont les maux irréparables. J'ose vous le conseiller. Quittez pour quelque temps le monde et venez auprès de moi. Je l'entrevois confusément, ce monde. Mais il me semble qu'il ne suffit pas de toutes les qualités du cœur et de l'esprit pour y vivre en paix. Il exige une certaine science, qui n'est pas précisément condamnable, mais qui vous initie cependant trop avant dans le secret du vice et dans la défiance que les hommes doivent inspirer. Vous avez l'esprit le plus étendu, mais votre âme est trop jeune, trop prompte à se livrer. Mettez votre sensibilité sous l'abri de la solitude. Fortifiez-vous par la retraite et retournez ensuite dans la société. Si vous y restiez maintenant, vous ne guéririez point des peines que vous avez éprouvées. Venez goûter le calme. Venez vous reposer par l'absence des objets pénibles et par la suspension momentanée de toute émotion nouvelle. Ce tableau sans couleur n'a rien d'attirant, mais à la longue, une situation monotone fait du bien. Si les consolations qu'il faut puiser en soi-même ne sont pas rapides, leur effet au moins est durable. Je ne vous parle point de mon affection. C'est avec timidité que je la rappelle quand il s'agit des peines de l'amour. Cependant, une fois, je l'espère, votre âme tendre y trouvera peut-être encore quelque douceur. Lettre 2. Réponse de Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Bellerive, 26 juillet 1790. Oui, j'irai vous rejoindre et pour toujours. Cependant, pourquoi dites-vous qu'il ne m'a jamais aimé? Je sais bien que je n'ai plus d'avenir, mais il ne faut pas m'ôter le passé. Au concert, au bal, la dernière fois que je l'ai vu, j'en suis sûre, il m'aimait. Il y a maintenant 12 jours que je ne fais plus que repasser sur les mêmes souvenirs. Je me suis rappelé des mots, des regards, des accents dont je n'avais pas assez joui, mais qui doivent me convaincre de son affection, Il m'aimait, j'étais libre, et il est l'époux d'une autre. Ne croyez pas que jamais ma pensée puisse sortir de ce cercle cruel que les regrets tracent autour de moi. Depuis le jour où j'aurais dû mourir, j'ai vécu seule, je n'ai vu que Thérèse, je n'ai point répondu aux lettres de Madame de Vernon. Je lui ai fait dire que je ne pouvais pas la voir. Vous-même ne m'auriez pas fait du bien. Je saurais recouvrer quelque empire sur moi-même, mais le bonheur, votre raison même vous dira qu'il n'en est plus pour moi. Vous ne pensez pas que jamais je puisse aimer un autre homme que Léonce, ce charme irrésistible qui m'avait inspiré la première passion de ma vie. Vous ne pensez pas que jamais je puisse l'oublier. Eh bien, le sort d'une femme est fini quand elle n'a pas épousé celui qu'elle aime. La société n'a laissé dans la destinée des femmes qu'un espoir. Quand le lot est tiré et qu'on a perdu, tout est dit. On essaie de vains efforts. Souvent même, on dégrade son caractère en se flattant de réparer un irréparable malheur. Mais cette inutile lutte contre le sort ne fait qu'aggraver les jours de la jeunesse et dépouiller les dernières années de ses souvenirs de vertu. L'unique gloire de la vieillesse et du tombeau. Que faut-il donc faire quand une cause, inconnue ou méritée, vous a ravi le bien suprême, l'amour dans le mariage? Que faut-il donc faire quand vous êtes condamné à ne jamais le connaître? Éteindre ses sentiments, se sentir aride, comme tant d'êtres qui disent qu'ils s'en trouvent bien. Étouffer ces élans de l'âme qui appellent le bonheur et se brisent contre la nécessité. J'y ai presque réussi, c'est aux dépens de mes qualités, je le sais. Mais qu'importe, pour qui maintenant les conserverai-je? Je suis moins tendre avec Thérèse. J'ai quelque chose de contraint dans mes paroles, dans mon air, qui m'inspire de la déplaisance pour moi-même. Ses défauts me conviennent. Léonce ne m'a-t-il pas jugé indigne de lui? Pourquoi ne lui donnerais-je pas raison? Vous voulez que je retourne vers vous, ma chère Louise, mais pourrez-vous me reconnaître? J'ai fait sur moi un travail qui a singulièrement altéré ce que j'avais d'aimable. Ne fallait-il pas roidir mon âme pour supporter ce que je souffre? S'éveiller sans espoir, traîner chaque minute d'un long jour comme un fardeau pénible, ne plus trouver d'intérêt ni de vie à aucune des occupations habituelles. Regarder la nature sans plaisir, l'avenir sans projet. Juste ciel, quelle destinée! Et si je me livre à ma douleur, savez-vous quelle est l'idée? L'indigne idée qui s'empare de moi, le besoin d'une explication avec Léonce. Il me semble que je lui dirai des paroles qui me vengeraient. Mais à quoi me servirait-il de me venger? La fierté seule peut me conserver quelques restes de son estime. Cependant, pourra-t-il éviter de me voir? C'est à moi de m'y refuser. Je le dois, je le veux. Louise, ce qui m'a perdu, c'est trop d'abandon dans le caractère. Je me sens de l'admiration pour les qualités, pour les défauts même qui préservent de l'ascendant des autres. J'aime, j'estime, la froideur, le dédain, le ressentiment. Léonce verra si moi aussi je ne puis pas lui ressembler. Que verra-t-il? Il ne me regarde plus. Je m'agite et il est en paix. Ma vie n'est de rien dans la sienne. Il continue sa route et me laisse en arrière, après m'avoir vu tomber du char qui l'entraîne. Vous me parlez de la retraite? J'ai le monde en horreur. Mais la solitude aussi m'est pénible. Dans le silence qui m'environne, je suis poursuivie par l'idée que personne sur la terre ne s'intéresse à moi. Personne. Ah, pardonnez. C'est à Léonce seul que je pensais. Funeste sentiment qui dévaste le cœur et n'y laisse plus subsister aucune des affections douces qui le remplissaient. C'est pour vous seule, ma sœur, que j'essaie de vivre. Madame de Vernon, que j'ai tant aimée, ne m'est plus qu'une pensée douloureuse. Je lui adresse au fond de mon cœur des reproches pleins d'amertume. Hélas, peut-être que Léonce seul les mérite. Je veux me préserver du premier tort des malheureux, de l'injustice. Je recevrai Madame de Vernon puisqu'elle veut me voir. Elle m'écrit que mon refus l'afflige. Oh, je ne veux pas l'affliger. Peut-être, en la revoyant, reprendrai-je à son charme. Je redemande un intérêt, un moment agréable, comme on invoquerait les dons les plus merveilleux de l'existence. Il me semble que cesser de souffrir est impossible et qu'il n'y a plus au monde que de la douleur. Lettre 3. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, ce 30 juillet. J'ai vu Madame de Vernon. Elle est venue passer 2 jours à Bellerive. Je me promenais seule sur ma terrasse lorsque de loin je l'ai aperçue. J'ai été saisie d'un tel tremblement à sa vue que je me suis hâtée de m'asseoir pour ne pas tomber. Mais cependant, comme elle approchait, un sentiment d'irritation et de fierté m'a soutenue, et je me suis levée pour lui cacher mon trouble. Toute l'expression de son visage était triste et abattue. Nous avons gardé l'une et l'autre le silence. Enfin, elle l'a rompu en me disant que sa fille allait la quitter et s'établir avec son mari dans une maison séparée. Ce projet n'était pas le vôtre, lui ai-je dit. Non, répondit-elle, il dérange et mon aisance de fortune et l'espoir que j'avais d'être entourée de ma famille. Mais qui peut prétendre au bonheur? J'ai soupiré. Vous avez fait cependant, lui dis-je avec amertume, beaucoup de sacrifices à votre fille. Elle, du moins, vous devrait de la reconnaissance. Vous m'accusez, répondit-elle après quelques moments de réflexion. Vous m'accusez de vous avoir mal défendu auprès de Léonce. Je peux mériter ce reproche. Cependant, je vous l'assure, son irritation ne pouvait être calmée. Vos ennemis l'avaient prévenu avant que je le visse. Le blâme que vous avez encouru avait particulièrement offensé son respect pour l'opinion publique, et vos caractères se convenaient si peu que vous auriez été très malheureux ensemble. Vous avais-je chargé d'en juger, lui dis-je, et n'aviez-vous pas accepté, ou plutôt recherché, le devoir de me justifier? Et vous aussi, s'écria-t-elle, vous voulez m'abandonner? Vous en avez plus le droit que ma fille, et je me résigne à mon sort, sans vouloir lutter contre lui. Elle s'assit en finissant ces mots. Je la vis pâlir et trembler. Je l'avouerai, d'abord, je n'en fus point ému. J'ai tant souffert depuis 8 jours que mon âme est devenue plus ferme contre la douleur des autres. Cependant, lorsqu'elle versa des larmes, je me sentis attendrie. Je lui pris la main, je lui demandai de se justifier. Elle se tut et continua de pleurer. C'était la première fois de ma vie que je la voyais dans cet état. Tous mes souvenirs parlèrent pour elle dans mon cœur. « Eh bien, lui dis-je, eh bien, je puis vous aimer assez pour vous pardonner le malheur de ma vie. Vous ne m'avez point servi auprès de Léonce, mais en effet, c'était à son cœur à plaider pour moi. Lui qui était l'objet de ma tendresse, lui qui ne pouvait douter de mon amour, ne savait-il pas ma meilleure excuse? Cependant, comment avez-vous pu vous résoudre à précipiter ce mariage? N'aviez-vous pas besoin de mon consentement? Après l'aveu que je vous avais fait? Vous étiez mère, mais n'étais-je pas devenue votre fille en vous confiant mon sort? Oui, s'écria-t-elle en soupirant, ma fille, et bien plus tendre que ma fille. Je suis coupable, je le suis. Et sa pâleur et l'altération de ses traits devenaient à chaque instant plus remarquables. Je ne pus résister à ce spectacle, et je me jetai dans ses bras en lui disant, « Je vous pardonne. Si j'en meurs, souvenez-vous que je vous ai pardonné. » Elle me regarda avec une émotion extrême. Elle eut presque le mouvement de se jeter à mes pieds. Mais, se reprenant tout à coup, elle se leva et me demanda la permission de se promener un instant, seule. Je résolus, pendant qu'elle fut loin de moi, de l'interroger sur tout ce qui s'était passé. Quand elle revint, je le tentai. Cette conversation lui était pénible, et j'étais sans cesse combattu entre l'intérêt qui me faisait dévorer ses réponses et le sentiment de pitié qui me défendait d'insister. Si elle avait voulu se vanter et me tromper, notre liaison était rompue. Mais elle me peignit avec une telle vérité les nuances précises de son désir secret en faveur de sa fille, et de son exactitude, cependant, à dire ce que j'avais exigé d'elle, qu'elle exerça sur moi l'empire de la vérité. Je la condamnais, mais je l'aimais toujours. Et comme ses manières étaient restées naturelles, son charme existait encore. Elle m'avoua, avec confusion, qu'elle avait en effet pressé Léonce de conclure son mariage avec sa fille. Mais elle m'affirma que jamais il ne m'aurait épousée après l'éclat du duel de Monsieur de Servelane. Il était convaincu, me dit-elle, que tout le monde saurait un jour que j'avais réuni chez moi une femme avec son amant à l'insu de son mari, et que la mort de Monsieur d'Hervin en étant la suite, on ne me pardonnerait jamais. Le prétexte dont on voulait couvrir ce malheur, les opinions politiques, lui déplaisait presque autant que la vérité même. Enfin, Madame de Vernon ajouta que Léonce avait reçu la lettre de sa mère la plus vive contre moi, et ne cessa de me répéter que ma destinée eût été très malheureuse avec deux personnes qui auraient traité la plupart de mes qualités comme des défauts. Je repoussais ces consolations pénibles, et je ne lui trouvais pas le droit de me les donner. Je n'aimais pas davantage ses conseils répétés de fuir Léonce et d'aller passer quelque temps auprès de vous, jusqu'à ce qu'il partît pour l'Espagne, comme c'était son dessein. Ses conseils étaient d'accord avec mes résolutions, mais je n'avais pas rendu à Madame de Vernon le pouvoir de me diriger. Et c'était presque malgré moi que je me laissais captiver par sa grâce et sa douceur. Dans le cours de cette conversation, je lui demandai une fois si Léonce n'avait pas imaginé que je m'intéressais trop vivement à Monsieur de Servelane. Mais elle repoussa bien facilement cette supposition qui m'aurait été plus douce. En effet, la jalousie que Monsieur de Servelane avait un moment inspirée à Léonce n'était-elle pas tout à fait détruite par la confidence même du secret de Madame d'Hervin? Non, Louise. Il ne reste aucune pensée sur laquelle mon cœur puisse se reposer. Madame de Vernon me parla ensuite de Mathilde et de Léonce. « Il ne l'aime pas, me dit-elle. Depuis leur mariage, il la voit à peine. Mais elle lui convient mieux qu'aucune autre, parce qu'elle ne fera jamais parler d'elle, et que c'est ainsi que doit être la femme d'un homme si sensible au moindre blâme. Quant à Mathilde, elle aimera Léonce de toutes les puissances de son âme, mais elle a une telle confiance dans l'ascendant du devoir qu'elle ne forme pas un doute sur l'affection de son mari pour elle. Elle n'observe rien et passe la plus grande partie de sa journée dans les pratiques de dévotion. Elle ne sera point ombrageuse en jalousie. Mais si quelque circonstance frappante lui découvrait l'attachement de Léonce pour une autre femme, elle serait aussi véhémente qu'elle est calme, et la raideur même de son esprit et l'inflexibilité de ses principes ne lui permettraient plus ni tolérance ni repos. Hélas, m'écriai-je, ce ne sera pas moi qui troublerai son bonheur. L'on n'a rien à craindre de moi. Ne suis-je pas un être immolé, anéanti? Ah, Sophie, lui dis-je, deviez-vous? Mais ne parlons plus ensemble de Léonce, afin que je puisse goûter le seul plaisir dont mon âme soit encore susceptible, le charme de votre entretien. Madame de Vernon voulait voir Madame d'Hervin, elle s'y est refusée. Thérèse ne se montrant pas pendant que Madame de Vernon était à Bellerive, j'ai passé deux jours tête à tête avec elle. Je l'avoue, le second jour j'éprouvais quelque soulagement. Il y a dans l'attrait que je ressens pour Madame de Vernon à présent quelque chose d'inexplicable. Elle ne m'inspire plus une estime parfaite. Ma confiance n'est plus sans bornes. Mais sa grâce me captive. Quand je la vois, je m'en crois aimée. Je suis moins oppressée auprès d'elle, et je ne puis l'entendre quelques heures sans imaginer confusément qu'elle m'a offert des consolations inattendues. Hélas, cette illusion a peu duré. Quand Madame de Vernon a été partie, je me suis retrouvée plus mal qu'avant son arrivée. Le bien qu'elle fait au cœur n'y reste pas. Quel trouble je sens dans mon âme! Mes idées, mes sentiments sont bouleversés. Je ne sais pour quel but ni dans quel espoir je dois me créer un esprit, une manière d'être nouvelle. Je flotte dans la plus cruelle des incertitudes, entre ce que j'étais et ce que je veux devenir. Ma douleur, la douleur, est tout ce qu'il y a de fixe en moi. C'est elle qui me sert à me reconnaître. Mes projets varient, mes desseins se combattent, mon malheur reste le même. Je souffre et je change de résolution pour souffrir encore. Louise, faut-il vivre quand on craint l'heure qui suit, le jour qui s'avance, comme une succession de pensées amères et déchirantes? Si le temps ne me soulage pas, tout n'est-il pas dit? Le secret de la raison, c'est d'attendre. Mais qui attend en vain n'a plus qu'à mourir. Lettre 4. Léonce à Monsieur Barton. Paris, ce 5 août. Vous me demandez comment je passe ma vie avec Mathilde. Ma vie, elle n'est pas là. Je me promène seule tous les jours, et Mathilde ne s'en inquiète pas. Pendant ce temps, elle va à la messe, elle voit son évêque, ses religieuses. Que sais-je, elle est bien. Quand je la retrouve, de la politesse et de la douceur lui paraissent du sentiment. Elle s'en contente, et cependant elle m'aime. La fille de la personne du monde qui a le plus de finesse dans l'esprit et de flexibilité dans le caractère marche droit dans la ligne qu'elle s'est tracée, sans apercevoir jamais rien de ce qu'on ne lui dit pas. Tant mieux, je ne la rendrai pas malheureuse. Et que m'importe son esprit, puisque je ne veux jamais lui communiquer mes pensées. Nous avancerons l'un à côté de l'autre dans cette route vers la tombe que nous devons faire ensemble. Ce voyage sera silencieux et sombre, comme le but. Pourquoi s'en affliger? Un seul être au monde changeait en pompe de bonheur cette fête de mort que les hommes ont nommée le mariage. Mais cet être était perfide, et un abîme nous a séparés. Mon ami, je voudrais venger M. Dervin. Pourquoi M. de Cerbella n'existe-t-il après avoir tué un homme? N'a-t-il tué que ce Dervin? Et moi, juste ciel, est-ce que je vis? Je ne suis pas content de ma tête, elle s'égare quelquefois. Ce que j'éprouve surtout, c'est de la colère. Une irritabilité que vous aviez adoucie ne me laisse plus de repos. Je n'ai pas un sentiment doux. Si je pense que je pourrais la rencontrer, je ne me plais qu'à lui parler avec insulte. Il n'y a plus de bonté en moi. Mais qu'en ferais-je? Ne disait-on pas que Delphine était remarquable par la bonté? Je ne veux pas lui ressembler. Tous les jours, une circonstance nouvelle accroît mon amertume. J'étais étonnée de ce que le départ de Madame d'Albémar n'avait pas encore eu lieu. Je remarquais le séjour de Madame Dervin chez elle, et j'avais fait de ce séjour même une sorte d'excuse à sa conduite. Je me disais qu'apparemment, elle n'avait point pris avec trop de chaleur et d'éclat le parti de Monsieur de Cerbellane, puisque la femme de Monsieur Dervin avait choisi sa maison pour asile. Et quoique cette circonstance ne changea rien aux relations de Madame d'Albémar avec M. de Cerbellane, à ces 24 heures passées chez elle, misérable que je suis, je sentais mon ressentiment adouci. Mais hier, mon banquier, chez qui j'étais entré pour je ne sais quelle affaire, reçut devant moi deux lettres de Monsieur de Serbellane pour Madame d'Albémare, et les lui adressa dans l'instant même, en faisant une plaisanterie sur ce qu'elle avait envoyé plusieurs fois demander si ces lettres étaient arrivées. Je n'apprenais rien par cet incident. Eh bien, j'en ai été comme fou tout le jour. Que me demandez-vous encore? Si Mathilde et moi nous restons chez Madame de Vernon? Mathilde veut avoir un établissement séparé. Elle aime l'indépendance dans les arrangements domestiques, et d'ailleurs la vie de sa mère n'est point d'accord avec ses goûts. Madame de Vernon se couche tard, aime le jeu, voit beaucoup de monde. Mathilde veut régler son temps d'après ses principes de dévotion. Je la laisse libre de déterminer ce qui lui convient. Comment, dans l'état où je suis, pourrais-je avoir la moindre décision sur quelque objet que ce soit? Je ne remarque rien, je ne sens la différence de rien. J'ai une pensée qui me dévore et je fais des efforts pour la cacher. Voilà tout ce qui se passe en moi. Il me parut cependant que Madame de Vernon était plus affectée du projet de sa fille que je ne m'y serais attendue d'un caractère aussi ferme que le sien. Elle a prononcé, à demi-voix et avec émotion, les mots d'isolement et d'oubli. Mais, reprenant bientôt les manières indifférentes dont elle sait si bien couvrir ce qu'elle éprouve, « Faites ce que vous voudrez, ma fille, a-t-elle dit. Il ne faut vivre ensemble que si l'on y trouve réciproquement du bonheur. » Et, en finissant ces mots, elle est sortie de la chambre. Singulière femme. Excepté un seul et funeste jour, elle ne m'a jamais parlé avec confiance, avec chaleur, sur aucun sujet. Mais ce jour-là, elle exerça sur moi un ascendant inconcevable. Ah, quel mouvement de fureur et d'humiliation! Ce qu'elle m'a dit ne m'a-t-il pas fait éprouver? Ne me demandez jamais de vous en parler, je ne le puis. Je veux aller en Espagne voir ma mère, m'éloigner d'ici. Je l'ai annoncé à Mathilde. Je pars dans un mois, plus tôt peut-être, quand je serai sûre de ne pas rencontrer Madame d'Albémare sur la route. Un homme de mes amis m'a assuré que Madame de Vernon avait beaucoup de dettes. Cela se peut. La précipitation avec laquelle j'ai tout signé ne m'a permis de rien examiner. Si Madame de Vernon a des dettes, il est du devoir de sa fille de les payer. Ce mariage avec Mathilde me ruinera peut-être entièrement. Eh bien, cette idée me satisfait. Madame d'Albémare aura jeté sur moi tous les genres d'adversité. Elle ne croira pas du moins qu'en m'unissant à une autre, je me sois ménagé pour le reste de ma vie aucune jouissance ni même aucun repos. Elle ne croira pas. Mais, insensée que je suis, s'occupe-t-elle de moi? N'écrit-elle pas à Monsieur de Serbellane? Ne reçoit-elle pas de ses lettres? Ne doit-elle pas le rejoindre? Ah, que je souffre! Adieu. Lettre 5. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 4 août. Depuis que j'existe, vous le savez, ma sœur, l'idée d'un Dieu puissant et miséricordieux ne m'a jamais abandonnée. Néanmoins, dans mon désespoir, je n'en avais tiré aucun secours. Le sentiment amer de l'injustice que j'avais éprouvée s'était mêlé aux peines de mon cœur, et je me refusais aux émotions douces qui peuvent seules rendre aux idées religieuses tout leur empire. Hier, je passai quelques instants plus calme, en cessant de lutter contre mon caractère naturel. Je descendis, vers le soir, dans mon jardin, et je méditai pendant quelque temps, avec assez d'austérité, sur la destinée des âmes sensibles au milieu du monde. Je cherchais à repousser l'attendrissement que me causait l'image du Léonce. Je voulais le confondre avec les hommes injustes et cruels, avides de déchirer le cœur qui se livre à leur coup. j'essayais d'étouffer les sentiments jeunes et tendres dont j'ai goûté le charme depuis mon enfance. La vie, me disais-je, est une œuvre qui demande du courage et de la raison. Au sommet des montagnes, à l'extrémité de l'horizon, la pensée cherche un avenir, un autre monde, où l'âme puisse se reposer, où la bonté jouisse d'elle-même, où l'amour, enfin, ne se change jamais en soupçons amers, en ressentiments douloureux. Mais dans la réalité, dans cette existence positive qui nous presse de toutes parts, il faut, pour conserver la dignité de sa conduite, la fierté de son caractère, réprimer l'entraînement de la confiance et de l'affection, irriter son cœur lorsqu'on le sent trop faible, et contenir dans son sein les qualités malheureuses qui font dépendre tout le bonheur des sentiments qu'on inspire. Je me ferai, disais-je, encore une destinée fixe, uniforme, inaccessible aux jouissances comme à la douleur. Les jours qui me sont comptés seront remplis seulement par mes devoirs. Je tâcherai surtout de me défendre de cette rêverie funeste qui replonge l'âme dans le vague des espérances et des regrets. En s'y livrant, on éprouve une sensation d'abord si douce et ensuite si cruelle. On se croit attiré par une puissance surnaturelle. Elle vous fait pressentir le bonheur à travers un nuage. Mais ce nuage s'éclaircit par degrés et découvre enfin un abîme où vous aviez cru voir une route indéfinie de vertus et de félicités. Oui, me répétais-je, j'étoufferai en moi tout ce qui me distinguait parmi les femmes, pensée naturelle, mouvement passionné, élan généreux de l'enthousiasme. Mais j'éviterai la douleur, la redoutable douleur. Mon existence sera tout entière concentrée dans ma raison, et je traverserai la vie ainsi armée contre moi-même et contre les autres. Sans interrompre ces réflexions, je me levai, je marchai d'un pas plus ferme, me confier davantage dans ma force. Je m'arrêtai près des orangers que vous m'avez envoyés de Provence. Leurs parfums délicieux me rappelèrent le pays de ma naissance, où ces arbres du midi croissent abondamment au milieu de nos jardins. Dans cet instant, un de ces orgues que j'ai si souvent entendu dans le Languedoc passa sur le chemin et joua des airs qui m'ont fait danser quand j'étais enfant. Je voulais m'éloigner. Un charme irrésistible me retint. Je me retraçais tous les souvenirs de mes premières années. Votre affection pour moi, la bienveillante protection dont votre frère cherchait à m'environner, la douce idée que je me faisais dans ce temps de mon sort et de la société. Combien j'étais convaincue qu'il suffisait d'être aimable et bonne pour que tous les cœurs s'ouvrissent à votre aspect, et que les rapports du monde ne fussent plus qu'un échange continuel de reconnaissance et d'affection. Hélas, en comparant ces délicieuses illusions avec la disposition actuelle de mon âme, j'éprouvais des convulsions de larmes. Je me jetais sur la terre avec des sanglots qui semblaient devoir m'étouffer. J'aurais voulu que cette terre m'ouvrît son repos éternel. En me relevant, j'aperçus les étoiles brillantes, le ciel si calme et si beau. Ô Dieu, m'écriai-je, vous êtes là, dans ce sublime séjour si digne de la toute-puissance et de la souveraine bonté. Les souffrances d'un seul être se perdent-elles dans cette immensité? Ou votre regard paternel se fixe-t-il sur elles pour les soulager et les faire servir à la vertu? Non. Vous n'êtes point indifférent à la douleur. C'est elle qui contient tout le secret de l'univers. Secourez-moi, grand Dieu, secourez-moi. Ah, pour avoir aimé, je n'ai pas mérité d'être oublié de vous. Aucun être, dans le petit nombre d'années que j'ai passé sur cette terre, aucun être n'a souffert par moi. Vous n'avez entendu aucune plainte qui fût causée par mon existence. J'ai été, jusqu'à ce jour, une créature innocente. Pourquoi donc me livrez-vous à des tourments si cruels ? Ma Louise, en prononçant ces mots, j'avais pitié de moi-même. Ce sentiment a quelque douceur. Un secours plus efficace pénétra dans mon cœur. Je me blâmais d'avoir tardé si longtemps à recourir à la prière. Je repoussais le système que je m'étais fait de froideur et d'insensibilité. Ce que je craignais, c'était l'amour, c'était la faiblesse qui m'inspirait quelquefois le désir d'aller vers Léonce, de me justifier moi-même à ses yeux, de braver pour lui parler tous les devoirs, tous les sentiments délicats. Je trouvais bien plus de ressources contre ces indignes mouvements dans l'élévation de mon âme vers son Dieu, dans les promesses que je lui fis de rester fidèle à la morale, et je revins chez moi, plus satisfaite de mes résolutions. Depuis, je me suis occupée de Thérèse. Il y avait quelques jours que je ne l'avais vue. Elle passe presque toutes ses heures avec un prêtre vénérable, qui a pris beaucoup d'ascendance sur elle. Son dessein est d'aller à Bordeaux pour arranger ses affaires lorsqu'elle se croira sûre de n'avoir rien à craindre de la famille de son mari. Comme nous causions ensemble, je reçus des lettres de M. de Servelane que mon banquier m'envoyait, parce que c'est sous mon nom qu'il écrit à Thérèse. Je les lui remis. Elle pleura beaucoup en les lisant et me dit: il m'est permis de les recevoir encore, mais dans quelques mois je ne le pourrai plus. Je voulais qu'elle s'expliquât davantage. Elle s'y refusa. Je n'osais pas insister. J'ignore par quelle pratique, par quelle pénitence elle essaie de se consoler. Sans partager ses opinions, je n'ai point cherché jusqu'à ce jour à les combattre. Qui sait, Louise, s'il n'y a pas des malheurs pour lesquels toutes les idées raisonnables sont insuffisantes. Lettre 6. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Bellerive, ce 6 août. Je me croyais mieux, ma sœur, la dernière fois que je vous ai écrit. Aujourd'hui, les circonstances les plus simples, telles qu'il en est trace chaque jour de semblables, ont rempli mon âme d'amertume. Le fond triste et sombre sur lequel repose ma destinée ne peut varier. Et cependant, ma douleur se renouvelle sous mille formes, et chacune d'elles exige un nouveau combat pour en triompher. Oh, qui pourrait supporter longtemps l'existence à ce prix? Ce matin, un de mes gens m'a apporté, de Paris, des lettres assez insignifiantes et la liste des personnes qui sont venues me voir pendant mon absence. Je regardais avec distraction ces détails de la société qui m'intéressent si peu maintenant. Lorsqu'une lettre imprimée, que je n'avais point remarquée, attira mon attention, je l'ouvris et j'y vis ces mots. Monsieur Léonce de Mondeville à l'honneur de vous faire part de son mariage avec Mademoiselle de Vernon. Le mal que m'a fait cette vaine formalité est insensé. Mais tout n'est-il pas folie dans les sensations des malheureux? J'ai été indigné contre Léonce. Il me semble qu'il aurait dû veiller à ce qu'on ne suivît pas l'usage envers moi. Je trouvais de l'insulte dans cet envoi d'une annonce à ma porte, comme s'il avait oublié que c'était une sentence de mort qu'il m'adressait ainsi par forme de circulaire, sans daigner y joindre je ne sais quel mot de douceur ou de pitié. Je passai la matinée entière dans un sentiment d'irritation inexprimable. Le croiriez-vous, je commençais 20 lettres à Léonce pour m'abandonner à peindre ce qui m'oppressait. Mais je savais, en les écrivant, que je les brûlerais toutes. Soyez-en sûr, je le savais. Je ne puis répondre des mouvements qui m'agitent, mais quand il s'agira des actions, ne doutez pas de moi. Ce jour, si péniblement commencé, me réservait encore des impressions plus cruelles. Madame de Vernon vint me demander à dîner. Une demi-heure après son arrivée, comme j'étais appuyé sur ma fenêtre, je vis dans mon avenue cette voiture bleue de Léonce qui m'était si bien connue. Un tremblement affreux me saisit. Je crus qu'il venait avec sa femme accomplir encore son barbare cérémonial. J'étais dans un état d'agitation inexprimable et je regardais Madame de Vernon, et ma pâleur l'effraya tellement qu'elle avança rapidement vers moi pour me soutenir. Elle aperçut alors cette voiture que je regardais fixement, sans pouvoir en détourner les yeux. « C'est ma fille seule, » me dit-elle promptement. « Il n'y sera pas, j'en suis sûre. Il ne viendrait pas chez vous. » Ces mots produisirent sur moi les impressions les plus diverses. Je respirais de ce qu'il ne venait pas. L'attente d'une si douloureuse émotion me faisait éprouver une terreur insupportable. Mais je fus couverte de rougeur en me répétant les paroles de Madame de Vernon. « Il ne viendrait pas chez vous. » Elle sait donc qu'il me croit indigne de sa présence, ou qu'il a pitié de ma faiblesse, de l'amour qu'il me croit encore pour lui. Ah, si je le voyais, combien je serais calme, fière, dédaigneuse. Pendant que je cherchais à reprendre quelque force, les deux battants de mon salon s'ouvrirent et l'on annonça Madame de Mondeville. Louise, c'est ainsi que l'heureuse Delphine se fut appelée si Thérèse. Ah, ce n'est pas Thérèse, c'est lui seul. À l'abri de ce nom de Mondeville, si doux, si harmonieux quand il présageait sa présence, à l'abri de ce nom, Mathilde s'avançait avec fierté et avec confiance. Et moi, qui l'en a dépouillée, je n'osais lever les regards sur elle. Je pouvais à peine me soutenir. Elle m'aborda fort simplement et ne me parut pas avoir la moindre idée des motifs de mon absence. Elle attribua tout à mes soins pour Madame d'Hervin et me parut avoir gagné depuis qu'elle passait sa vie avec Léonce. « Je ne suis pas la rose, dit un poète oriental, mais j'ai habité avec elle. Dieu, que deviendrais-je, moi, condamné à ne plus le revoir ?» Une fois dans la conversation, il me sembla que Mathilde avait pris un geste, un mot familier à Léonce. Mon sang s'arrêta tout à coup à ce souvenir si doux en lui-même, si amer quand c'était Mathilde qui me le retraçait. Un des gens de Léonce servait Mathilde à table. Tous ces détails de la vie intime me faisaient mal. Si je restais ici, j'éprouverais à chaque instant une douleur nouvelle. Voir sans cesse Mathilde, sentir son bonheur goutte à goutte. Non, je ne le puis. Quand il fallait m'adresser à elle, lui offrir ce qui se trouvait sur la table, j'évitais de lui donner aucun nom. Madame de Vernon l'appelait souvent Madame de Mondeville, et chaque fois je tressaillais. Je m'aperçus aisément que Madame de Vernon était blessée contre sa fille. Mais je gardai le silence sur tout ce qui pouvait amener une conversation animée. À peine pouvais-je articuler les mots les plus insignifiants sans me trahir. Enfin, après le dîner, Madame de Vernon demanda à Mathilde quand son nouvel appartement serait prêt. « Dans 6 jours, » répondit Mathilde. Et, se retournant vers moi, elle me dit « Je vois bien que cet arrangement déplaît à ma mère, mais je vous en fais juge, ma cousine. N'est-il pas convenable que nous vivions dans des maisons séparées? Nos goûts et nos opinions diffèrent extrêmement. Ma mère aime le jeu. Elle passe une partie de la nuit au milieu du monde. La solitude me convient, et nous serons beaucoup plus heureuses toutes les deux en nous voyant souvent, mais en n'habitant pas sous le même toit. Finissons-en sur ce sujet, lui dit Madame de Vernon assez vivement. J'aurais modifié mes habitudes avec plaisir. Je les aurais même sacrifiées si je m'étais cru nécessaire à votre bonheur. Quant à vos opinions, puisque c'est moi qui ai dirigé votre éducation, il n'y a pas d'apparence que je ne sache pas ménager une manière de penser que j'ai voulu vous inspirer. Mais vous parlez du goût, d'habitude et jamais d'affection. Celle que vous avez pour moi, en effet, a bien peu d'ascendant sur votre vie. N'en parlons plus. J'avais encore une illusion. Vous venez de me prouver qu'il suffit d'en avoir une, quelque aride que soit d'ailleurs la vie, pour éprouver de la douleur. Mathilde rougit. Je serrai la main de Madame de Vernon et nous gardâmes toutes les trois le silence pendant quelques minutes. Enfin, Madame de Vernon le rompit en demandant à Mathilde si elle avait été voir sa cousine, Madame de Lébancé.
Je ne pense pas assurément, répondit Mathilde, que vous exigiez de moi d'aller voir une femme qui s'est remariée pendant que son premier mari vivait encore. Un pareil scandale ne sera jamais autorisé par ma présence.
Mais son premier mari était étranger et protestant, lui répondit Madame de Vernon. Elle a fait divorce avec lui selon les lois de son pays.
Et sa religion à elle-même, reprit Mathilde. La comptez-vous pour rien?
Elle est catholique. Pouvait-elle se croire libre quand sa religion ne le permettait pas?
Vous savez, reprit Madame de Vernon, que son premier mari était un homme très méprisable, qu'elle aime le second depuis 6 ans, qu'il lui a rendu des services généreux.
Je ne m'attendais pas, je l'avoue, interrompit Mathilde, que ma mère justifierait la conduite de Madame de Lébancé.
Je ne sais si je la justifie, répondit Madame de Vernon, mais quand Madame de Lébancé aurait commis une faute, la charité chrétienne commanderait l'indulgence envers elle.
La charité chrétienne, répondit Mathilde, est toujours accessible au repentir, mais quand on persiste dans le crime, elle ordonne au moins de s'éloigner des coupables.
Et vous voudriez, ma fille, que Madame de Lébancé quitta maintenant Monsieur de Lébancé?
Oui, je le voudrais, s'écria Mathilde, car il ne peut être son mari.
On dit de plus que c'est un homme dont les opinions politiques et religieuses ne valent rien.
Mais je ne m'en mêle point. Il est protestant. Il est tout simple que sa morale soit fort relâchée.
Il n'en est pas de même de Madame de Lébancé. Elle est catholique, elle est ma parente. Je vous le répète, ma conscience ne me permet pas de la voir.
Eh bien, j'irai seule chez elle, répondit Madame de Vernon.
Je vous y accompagnerai, ma chère tante, lui dis-je, si vous le permettez.
Aimable Delphine, s'écria Madame de Vernon en soupirant.
Eh bien, nous irons ensemble. Elle demeure à 2 lieues de chez vous. Elle passe sa vie dans la retraite. Elle sait combien sa conduite a été non seulement blâmée, mais calomniée. Elle ne veut point s'exposer à la société qui est très mal pour elle.
Dites-lui bien, reprit Mathilde avec assez de vivacité, que ce n'est point ce qu'on peut dire d'elle qui m'empêche d'aller la voir. Je ne suis point soumise à l'opinion, et personne ne la saurait la braver plus volontiers que moi, si le moindre de mes devoirs y était intéressé. Au premier signe de repentir que donnera Madame de Lébancé, je volerai auprès d'elle, et je la servirai de tout mon pouvoir.
Mathilde, m'écriai-je involontairement, Mathilde, croyez-vous qu'on se repente d'avoir épousé ce qu'on aime?
À peine ces mots m'étaient-ils échappés, que je craignis d'avoir attiré son attention sur le sentiment qui me les avait inspirés. Mais je me trompais. Elle ne vit dans ces paroles qu'une opinion qui lui parut immorale, et la combattit dans ce sens. Je me tus, elle et sa mère repartirent pour Paris, et je vis ainsi finir une contrainte douloureuse. Mais que de sentiments amers se sont ranimés dans mon cœur! Quelle conduite que celle de Léonce! Il ne me fait pas dire un mot, il ne veut pas me voir, il m'accable de mépris.
Louise, j'ai écrit ce mot, malgré ce qu'il m'en a coûté, j'ai pu l'écrire, car c'est de toute la hauteur de mon âme que je considère l'injustice même de Léonce. Je voudrais, au prix de ma misérable vie, qu'il me fût possible de le rencontrer encore une fois par hasard, sans qu'il pût me soupçonner de l'avoir recherché. Je saurais alors, croyez-en sûr, je saurais reconquérir son estime. Je m'enorgueillis à cette idée. Je l'aime peut-être encore, mais ce qui m'est nécessaire surtout, c'est qu'il me rende cette considération à laquelle il a sacrifié son bonheur, oui, son bonheur. Je valais mieux pour lui que Mathilde. Se peut-il qu'un mouvement de regret ne lui inspire pas le besoin de me parler ?
Louise, ne condamnez pas celle que vous avez élevée.
Ce souhait, le ciel m'en est témoin, je ne le forme point pour me livrer aux sentiments les plus criminels.
Mais je voudrais, du moins, refuser de le voir, qu'il le sût, qu'il en souffrît un moment, et qu'il cessât de me croire le plus faible des êtres, le plus indigne de son inflexible caractère.
Louise, j'éprouve les douleurs les plus poignantes, et celles que je confie, et celles qui me font mal à développer.
Pardonnez-moi si j'y succombe.
C'est pour vous seule que je vis encore.